Mon pseudo, c'est Mona. C'est d'ailleurs le même que mon prénom, qui est Mona aussi.
Pseudo ASAP, ce qui veut dire non pas passer à l'envers, mais as soon as possible.
Claudia.
Larsen, parce que pour l'effet Larsen d'abord.
Tu vois ma tête, tu vois, je veux pas m'appeler Marie-Rose.
Mais parce que ça te permet de rencontrer des gens que tu ne pourrais pas rencontrer dans, je dirais, dans la vie réelle.
En ce moment, ça m'amuse et puis c'est marrant, c'est un plaisir.
Ton boulot, ton bistrot. Comment tu fais pour rencontrer des gens? T'en as pas?
Il y en a qui draguent. Mais vraiment, sérieusement. Il y en a d'autres qui draguent comme moi, accidentellement.
Je me suis aperçue qu'avec certains mots, certaines phrases, certains tons, on arrivait à faire tellement rêver l'autre de l'autre côté qu'au bout de 2, 3, 4 jours, il tombe amoureux sans nous avoir jamais vus.
Ça fait travailler l'imagination, c'est incroyable. Il y a des histoires d'amour fantastiques sur le Minitel.
Après l'amour au temps du Minitel, l'amour à l'ère numérique. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'algorithme est-il un tue-l'amour? À l'heure où les sites de rencontres se multiplient, de Mythique à Adopte un mec, de Once à Bumble, sans oublier Tinder, l'appli aux 60 millions d'inscrits dans le monde, quelles sont les nouvelles lois de l'amour, pour reprendre le titre du livre enquête paru à la découverte de notre première invitée, la sociologue Marie Bergström, qui offre une photo en couleur de la sexualité, couple et rencontre d'ailleurs, hein, le tout réuni à cette ère toute particulière qu'est le numérique. Bonjour Marie Bergström.
Bonjour.
Ou comment rater sa vie amoureuse à l'ère du numérique, se demande aussi notre deuxième invité, le philosophe Richard Memto, dans son essai décalé Sex Friends, réflexion autour de la drague numérique à l'heure de la mise en réseau des corps, paru chez Zone Édition. Bonjour.
Bonjour.
Si l'on s'accorde à dire que les années 60 furent le témoin d'une révolution sexuelle, qu'en est-il du moment que nous vivons pour vous, Marie Bergström? Mythique, Tinder, Bumble, ces sites de rencontres, est-ce qu'ils ont pour vous radicalement changer notre manière d'aimer et de coucher? Est-ce que c'est une forte rupture ou juste un petit changement de ton, un glissement, pour avoir un aperçu?
Alors il y a des deux, effectivement. Et souvent on a dit que les sites et les applications, ça révolutionne tout, que c'est une véritable révolution sexuelle. Ça, on ne peut pas le dire. C'est-à-dire que cette nouvelle pratique, elle s'inscrit vraiment dans des évolutions longues, du coup, qui les précèdent. Donc c'est plutôt un produit d'évolution dans la sexualité, le couple et dans l'intimité, dont on voit aujourd'hui le résultat et des évolutions que ces applications et sites prolongent aussi activement. Mais en revanche, là où il y a vraiment quelque chose de nouveau, c'est que ces sites et applications, ils réunissent beaucoup d'utilisateurs. Et justement, en écoutant les extraits avant sur le Minitel, il faut se souvenir que des services de rencontre, il y en a eu avant. Et même il y a très longtemps, c'est-à-dire que les premières annonces et agences matrimoniales apparaissent au 19e siècle. Et ensuite, effectivement, le Minitel en France dans les années 80. Des services spécialisés dans la mise en relation de partenaires, il y en a donc depuis fort longtemps. Mais pour la première fois aujourd'hui, ces services sont utilisés par un public nombreux. Donc il y a vraiment là un changement.
D'échelle, en fait.
Voilà, d'échelle dans une banalisation de recours à des intermédiaires.
Vous dites ça aussi, Richard, même tout, que les sites de rencontres, c'est un peu la version moderne, actuelle des agences matrimoniales, à la différence que c'est l'algorithme, là, qui fait office d'intermédiaire.
Alors, c'est vrai que, bon, il y a une différence d'échelle, mais surtout, c'est l'effet que ça produit quand on approche ce monde d'abondance. Parce que j'ai l'impression qu'on passe, finalement, presque derrière le rideau, dans les coulisses, on se voit dans la vie de tous les jours sans savoir vraiment ce qu'on désire. Et tout à coup, sur l'application, sous une forme de petite mosaïque, on découvre tous ces gens qui, comme nous, sont en train de chercher quelque chose. Alors, chercher du sexe, chercher l'âme sœur. Et c'est comme si on se retrouvait au milieu de ces tonnes d'utilisateurs qui se tridulent comme des cigales en plein été et qui veulent, au fond, faire quelque chose de très humain, c'est-à-dire se lier les uns les autres.
Vous êtes allé vous perdre, vous, dans ce labyrinthe numérique?
Oui, bien sûr. Moi, évidemment, c'est un essai un petit peu théorique, philosophique, mais ça suppose une certaine pratique. Parce que sinon, on ne voit pas les limites de la théorie, quoi. Donc il faut évidemment voir, tester, se rendre compte à quel point on est perdu, parce que en même temps que donc il y a un changement d'échelle, il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent. Et c'est peut-être ça au fond le changement, c'est pas une révolution donc, mais ces nouveaux problèmes, on les a jamais posés de façon aussi aiguë que quand on doit simplement remplir un profil sur une application de rencontre.
Ça c'est un problème.
Ben oui, parce que tout à coup on doit tout rationaliser, tout préciser. Et si on le fait pas, d'ailleurs, on nous le demande. Donc on doit se rendre compte de ce qu'on désire. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme la nourriture, d'une certaine façon, longtemps en manger sans trop se demander combien de glucides, de lipides on ingérait. Et là, tout à coup, on a le même effet sidérant, et donc on est obligé de se dire, mais oui, au fond, combien de partenaires j'ai rencontrés, qui j'ai bloqué, à qui j'ai envoyé des photos, quel genre de photos, et comment je vais me prendre en photo moi aussi. Donc toutes ces questions-là, encore une fois, elles sautent au visage de celui qui s'inscrit pour la première fois.
Alors quand il y a un labyrinthe, qu'il soit numérique ou pas, a priori il y a un fil, quel est celui que vous avez suivi en vous baladant dans ce labyrinthe-là?
Moi je pense que j'ai perdu le fil,
c'était complètement perdu.
Je m'y suis perdu, mais je ne pense pas qu'on puisse faire autre chose que s'y perdre, et d'ailleurs... L'intérêt économique pour ces sites, c'est que on ne fasse pas qu'y passer 10 minutes et puis rencontrer l'âme sœur, on doit y rester.
On y passe du temps.
Voilà, donc on doit de toute façon s'y perdre, et on est amené à s'y perdre. Et à partir de là, en fait, il faut comprendre ce qu'on peut faire de cette ignorance, de ces questionnements, ce qui est très philosophique dans le fond. On est obligé de savoir qu'on ne sait pas tout.
Marie Berchon, quand je demande à Richard Mamtos s'il a été déjà sur ces sites, il me répond oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est quand même pas une évidence pour tout le monde. Et vous le rappelez, il y a encore beaucoup de gens qui regardent aussi ces sites un peu de loin, avec une forme de répulsion ou d'inquiétude par rapport à ce qui est en train de se jouer sur ces nouveaux espaces virtuels pour l'amour, pour la sexualité et les règles, les codes que ça pourrait bouleverser. Pourquoi, en fait, pour vous, ça ne colle pas encore totalement avec nos imaginaires amoureux?
Effectivement, les sites et les applications mettent au défi ces imaginaires qui sont, par exemple, cette idée forte que l'amour est aveugle, l'amour devrait être désintéressé, que la rencontre est fortuite, et quelque part qu'on devrait être l'objet de l'amour, c'est-à-dire l'amour nous tombe dessus plutôt qu'on va aller le chercher. Donc la recherche active de partenaires est déjà quelque chose qui est considéré suspect. Je pense que s'il y a toujours cette appréhension envers ces services, c'est que ces imaginaires-là, ils ont vraiment une longue histoire. C'est un produit du système matrimonial, si vous voulez, ou de l'amour romantique qui émerge comme un code au 19e siècle, qui est du coup le fruit de notre manière d'envisager les relations intimes aujourd'hui, est toujours très présent. Et ça explique aussi pourquoi les petites annonces, pourquoi les agences matrimoniales, pourquoi le Minitel n'ont jamais vraiment marché, justement parce que eux aussi, ils allaient à l'encontre de ces imaginaires amoureux. Donc quand les sites et les applications sont apparus, de fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont été l'objet des mêmes critiques que les agences matrimoniales 100 ans avant eux, avec cette idée que c'est une rationalisation inédite, que c'est le marché qui entre dans le domaine de l'amour et que ça, par définition, ça corrompt nos relations intimes. Donc, toujours une appréhension qui, de fait, effectivement, s'explique par le fait que ces nouveaux services collent assez mal, non pas avec la pratique de l'amour, mais plutôt les représentations de l'amour, la manière dont on se raconte la vie amoureuse.
Et ça, c'est vrai. On ne sait pas encore si l'algorithme est un tue-l'amour, mais c'est en tout cas un tue-romantisme. Pour vous aussi, Richard Mamtos?
Alors, justement, parce que vous parliez d'algorithme, mais en réalité, la majeure partie du travail, c'est l'utilisateur qui le fait. Et je pense que les interfaces sont assez simples. En réalité, elles n'ont pas beaucoup changé. Et ça veut dire que nous, on prend plaisir à sweeper, c'est-à-dire balayer l'écran dans le cas Tinder, mais simplement regarder, sélectionner. Et d'une certaine façon, on redécouvre un plaisir qui n'était pas tout à fait le plaisir de l'amour, c'est-à-dire de se laisser emporter par des passions, mais un plaisir, disons, plus calculateur, quoi. Ce qui peut-être était d'ailleurs déjà le cas, en fait, avant, puisqu'on calculait, mais pour d'autres raisons. Mais là, on sent qu'on peut retrouver cette espèce de plaisir qu'on a d'ailleurs juste en cherchant, je sais pas, un voyage sur Internet, un sac à dos à acheter, enfin, ce genre de choses. Et on n'est pas complètement déconnecté. Il faudrait être honnête et se dire, en réalité, les applications, les pratiques s'inscrivent vraiment dans ce qu'on fait avec des portables et avec simplement notre pratique de tous les jours de rencontre, enfin de sélection de nos objets de désir.
Pour l'instant, c'est l'utilisateur, mais demain, ce sera peut-être l'algorithme. On évoquait les intermédiaires dans les agences matrimoniales. Est-ce qu'on peut imaginer demain une sorte de coach virtuel, comme les scénaristes de la série d'anticipation Black Mirror l'ont fait, dans Hang the DJ, extrait de la 4e saison, un monde où le système vous trouverait le partenaire idéal.
Bon, alors, et si on regardait la date d'expiration? 3, 2, 1, go! On a 12 heures.
Ouais, 12 heures.
Voilà.
C'est pas très...
Ouais.
Pas très long.
Je trouve ça un peu court aussi. Ça devait être galère avant que le système existe. Je me demande seulement si on doit le faire directement.
Qu'entendez-vous par le faire directement?
Oh putain, fais chier.
Les systèmes trouvent toujours le partenaire parfait.
Parce que ça marche vraiment.
Un nouveau partenaire.
Coach, il doit y avoir une erreur.
Rien n'arrive par hasard.
Est-ce que sur ces sites, ces applis, on trouve ce qu'on cherche, Richard Memento?
Pour revenir là vraiment sur Black Mirror, c'est amusant parce qu'en fait, on voit le paradoxe. C'est-à-dire que pour pouvoir finalement rencontrer son âme sœur, faut essayer un nombre considérable de partenaires. Comme si on espérait à un moment donné sortir de cet état, disons, un petit peu naturel de promiscuité. Mais au fond, toute la série, donc je dévoile pas le spoil, enfin la fin de l'épisode.
Ne spoilez pas, oui.
Voilà, je le laisse complètement vierge. Il y a cette idée de rester dans un monde qu'on va condamner ensuite. Donc on découvre son partenaire grâce à ce monde, disons, de débauche, et en même temps, on veut tout de suite s'en extraire. Moi, je pense que cette espèce de situation complètement paradoxale, de quasi dissonance cognitive, elle ferait mieux de se résoudre en disant bon bah. On n'en sortira pas. Ce qu'on découvre, au contraire, c'est qu'on est vraiment liés les uns les autres dans une espèce de grand écosystème sexuel. Et du coup, autant l'accepter directement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sortie, il n'y aura pas de rédemption par l'amour qui d'un coup permettrait de nous extraire justement du rythme peut-être un petit peu éreintant des rencontres.
Qu'est-ce qu'on trouve ce qu'on cherche, Marie Bergström? Est-ce à penser que ce qu'on cherche vraiment, c'est le partenaire idéal sur ces sites?
Alors déjà, la question est de savoir ce qu'on cherche, oui. Parce que de fait, ce qui montre l'étude des pratiques et des usages très clairement, c'est que les usages sont très différents, et notamment en fonction de l'âge. Parfois, quand on parle des sites et des applications, on a un discours très homogénéisant, comme si tout le monde faisait la même chose, avait les mêmes expériences, les mêmes appréhensions, etc. En fait, c'est très différent parce que les enjeux de la vie amoureuse et sexuelle sont vraiment très très différents selon l'âge. Ça veut dire que lorsqu'on se connecte et qu'on a 18 ans, c'est pas du tout la même chose que lorsqu'on en a 30 et que voilà, on a plutôt envie de se mettre en couple, ou lorsqu'on, après une séparation, après 40 ans, 50 ans. Donc je pense qu'il faut vraiment situer un peu les enjeux. Donc ça veut dire que à l'âge de la jeunesse, l'enjeu c'est pas forcément de se mettre en couple. On est très ouvert à des formes de relations très différentes, éphémères, plus longues, sérieuses ou pas sérieuses. Mais justement, lorsqu'on s'approche de la trentaine, la norme conjugale s'est fait très forte. Et il y a vraiment une aspiration à se mettre en couple et aussi une injonction très forte de l'entourage à se ranger. Et du coup, la manière dont on utilise ce site est un peu différent. On voit une forme de volontarisme dans l'usage qui est très différent. Et après une séparation, encore une fois, c'est encore un tout petit peu différent. Donc, voilà, je pense que c'est, il n'y a pas d'usage unique. Il y a des personnes qui cherchent des choses différentes. Et selon les populations aussi, on trouve ou pas ce qu'on recherche. Il y a aussi des inégalités face à la rencontre selon les âges.
Sex friends, qu'est-ce que c'est pour vous, Richard Memento?
En réalité, c'est une expression anglaise, mais qui au fond n'a de sens quasiment qu'en France, parce que les Américains parleraient plutôt de fuck buddy, donc d'amis avec qui on couche, c'est un peu ça. Donc c'est-à-dire que c'est ni complètement du sexe, et c'est pas de l'amour. Voilà, c'est l'entre-deux, donc c'est une sorte de ni-ni, mais dans cet entre-deux, en fait, on découvre une capacité à se lier au-delà de la simple satisfaction sexuelle. Parce que pour avoir une satisfaction sexuelle, de toute façon, il faut commencer par cocher un certain nombre de cases qui créent une relation de confiance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se jeter totalement à corps perdu, ou sauf à ses propres risques, enfin à ses risques et périls, pardon. Comme peut-être auparavant on avait tendance à le faire, l'image du dragueur un peu lourd qui vient avec, disons, la laine alcoolisée, sortir ses phrases pour draguer, elle a vécu, puisque justement on sait qu'au fond il y a plus de questions que simplement de savoir si on va coucher ou pas. Donc il y a de savoir, est-ce que par exemple on sait où on en est d'un point de vue des maladies, est-ce qu'on sait si l'autre est marié ou pas, en couple ou pas, qu'est-ce qu'il veut faire. Donc on peut pas juste, j'allais dire, se foncer dessus, ce qui est encore une fois une image finalement un petit peu qui date, quoi, c'est celle du dragueur libertin, quoi, qui fait que pour un soir, le fameux coup d'un soir. La différence avec le plan cul, c'est que ce sera pas juste un coup d'un soir, il va falloir planifier un peu, ce sera un plan.
Il y a quelque chose d'un peu plus contractualisé aussi.
Ouais. Oui, alors contractualisé, mais c'est parce qu'on sent bien que ça nous dépasse. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose d'assez humain dans l'idée de se dire que la sexualité, l'intimité, nous oblige à être un petit peu plus liés que peut-être ce qu'on aimerait faire. Donc, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais vu à la télévision un débat comme ça entre des stars, en fait, des starlettes, enfin, de la télé, et où le jeune comédien Kev Adams disait, oui, mais moi, en fait, j'ai eu des amis avec qui je couchais, mais ça restait des amis. Et sur le plateau, c'était le plus jeune. Et autour, toutes les stars, donc on peut imaginer avoir des vies un petit peu étonnantes, n'ont pas compris, en fait, cette assertion. Parce qu'elles restaient dans un schéma où c'était soit on se marie, soit on se quitte. Et lui, donc, effectivement, ce nouveau mode de relation, lui a affirmé qu'il n'y avait pas d'exclusivité entre, d'une certaine façon, le sexe et l'amitié. On peut avoir les deux.
Marie Bergstrom, c'est effectivement ce qui se joue aussi sur ces sites, sur ces applis, si on met un peu de côté la question de l'amour, une réinvention aussi de la sexualité, une ouverture des possibles.
Oui, c'est-à-dire, si on parle de sex-friend, en fait, ça s'inscrit plus largement dans un élargissement des répertoires relationnels. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a plusieurs manières de vivre des relations intimes, des relations plus ou moins longues, des relations plus ou moins investies émotionnellement, qui comportent des noms multiples. Donc, on peut sex-friend, plan cul, coup d'un soir, aventure, relation sérieuse, relation amoureuse, couple, etc. Et ça, c'est une vraie évolution de fond. Qu'est-ce que ça décrit? Ça décrit une dissociation entre conjugalité et sexualité. Avant, la sexualité était plutôt très étroitement associée au couple, et aujourd'hui, elle se détache et elle s'exprime dans d'autres formes de relations. Donc ça, c'est vrai, c'est une évolution historique. C'est quelque chose qu'on voit tout particulièrement chez les jeunes. Et je pense que ce qui est important de souligner, c'est que cet élargissement des relations ou des formes relationnelles, ce n'est pas du tout une menace, entre guillemets, contre le couple. Et ça n'a pas du tout remis en cause l'idéal conjugal. C'est l'inverse, en fait. Aujourd'hui, la norme conjugale est plus forte que jamais. Et donc, il y a un peu cette idée qu'on peut expérimenter lorsqu'on est jeune, mais arrive un âge où il faut se ranger. Et justement, c'est un élargissement, mais qui n'a pas vraiment, on va dire, bousculé complètement les normes de la sexualité de couple. Donc c'est aussi quelque chose qui est très très important à souligner.
À propos de la norme, vous diriez que c'est un espace en cours de régulation.
C'est ce que vous voulez dire.
Internet, les oui. sites. Est-ce que tout est déjà très régulé, codifié, ou est-ce qu'au contraire, elle est en train de s'écrire, cette page-là?
C'est en train de s'écrire très, très certainement, parce que, effectivement, les sites et les applications, ce sont des espaces d'expérimentation. Donc, par exemple, les termes qu'on utilise pour décrire nos relations, en fait, sex friend, est utilisé par certains, mais c'est pas un terme très très diffusé. Il y a beaucoup de gens qui parlent de amitié, affinité, amitié avec un plus, plan cul, etc. Donc peut-être ces mots vont quelque part se figer et devenir des termes aussi usuels que couple, ou peut-être pas. Donc ça, c'est effectivement quelque chose à voir. Et donc les sites, les applications participent pleinement à cette évolution des relations intimes.
Alors comment ça se passe, les échanges sur ces sites? Quels sont les codes et les mots pour le dire? Extrait d'un reportage des Pieds sur Terre sur l'amour au temps des smartphones diffusé en février dernier.
Il y a des modes de rencontre très consuméristes de sexualité avec des applications géolocalisées, etc. Où là, on convient d'un rapport sexuel, en fait. Salut. Salut égale je souhaite avoir un rapport sexuel avec toi. Et si la personne répond salut, ça veut dire pourquoi pas. Et ensuite, la conversation va sur qu'est-ce que tu cherches ou tu cheux. La réponse, ça peut être un plan. Certains répondent l'amour, bizarrement, sur ces. Voilà, je cherche l'amour géolocalisé, l'amour à un ticket de métro près, quoi. Enfin, ça c'est étrange. Mais... D'autres restent évasives. Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, la question souvent qui arrive après, c'est es-tu actif ou passif? P ou A, enfin voilà, donc c'est vraiment des lettres parfois qui sont jetées comme ça. Donc il y a peu de fioritures, et puis en plus, comme en général on arrive à chercher un rapport fonctionnel, on va pas chercher à être dans la séduction, on cherche un rapport sexuel rapide et correspondant à une envie qui est très proche d'une envie d'avoir faim, quoi. Enfin, j'ai faim, j'ai envie de manger quelque chose, quoi.
Richard Memto. Là, on a un aperçu de l'écosystème. Est-ce qu'il vous semble encore très sauvage, ou à travers cette codification du langage, ces abréviations, le fait qu'on peut être assez direct aussi dans son approche, est-ce que vous avez le sentiment que l'écosystème est déjà tout organisé, déjà très réglé? Presque les jeux sont déjà faits.
Alors, effectivement, là, dans le reportage, c'était une version très directe. J'allais dire, il y a au contraire parfois le risque que la conversation continue et ne s'arrête jamais. Ce qui est parfois évoqué, hein, c'est-à-dire que certains précisent même sur les profils qu'ils ne veulent pas discuter éternellement. Parce qu'il y a une tendance aussi à se perdre dans des jeux épistolaires, en fait. On a toute une tradition littéraire de jeux épistolaires. Alors ça dépend des plateformes. C'est vrai que sur des applications, on va peut-être moins écrire. Sur les sites de rencontres, en revanche, on va pouvoir écrire beaucoup plus. Mais ce qui est intéressant, en revanche, c'est que on sent qu'effectivement, il faut être efficace. Il faut pas trop écrire, faut pas juste les lettres. Évidemment, ça suppose qu'on va avoir des modes de relation très 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 directs. Mais dans le fond, encore une fois, c'est qu'un amuse-bouche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir se rencontrer. Et là, il va se jouer aussi autre chose. Il faut pas croire que c'est une représentation très fidèle de la rencontre elle-même. Ces échanges extrêmement directs, ils sont juste, encore une fois, mis en relation. Qu'on soit rapide, compte tenu du nombre de candidats, en quelque sorte, éligibles à la rencontre, c'est finalement assez logique.
Vous mettez en avant, Marie Bergeon, cette dimension aussi de l'écrit dans ce premier pas, en fait. Hein. C'est un retour de l'écrit dans cette première étape.
Oui, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, mais aussi le témoignage, je pense que c'est aussi important de souligner que là, c'est un homme gay qui témoigne, et effectivement, il décrit des usages de sites d'applications de rencontres entre hommes, où les choses passent de fait très différemment que sur les sites et les applications hétérosexuelles. Ce sont effectivement des rencontres qui sont négociées rapidement. Il y a une explicitation de l'enjeu sexuel très clair. Voilà, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, où est-ce qu'on se retrouve, dans quelle position qu'on va adopter, etc. Et c'est une manière d'organiser des rencontres qui n'est pas du tout née avec Internet. Il y a eu une sexualité masculine dans des lieux de rencontres, dans des parcs, dans des toilettes publiques, etc., en amont d'Internet. Donc c'est finalement, on parle de cruising, parfois, c'est le terme anglais pour décrire une forme de sexualité anonyme et assez rapide qui, de fait, existe depuis longtemps. Si on regarde maintenant les sites et les applications hétérosexuelles, les choses sont très différentes. Le caractère sexuel est très rarement évoqué, en tout cas si explicitement. Il n'y a pas de négociation immédiate de la rencontre de la même manière. Pourquoi ? Parce que ce sont en fait des espaces où il y a des femmes et qu'il y a une inégalité de genre dans la sexualité. Les femmes ne négocient pas des rencontres de la même manière que des hommes si rapidement, etc. Parce que de fait, il y a des appréhensions, il y a aussi une crainte de la violence, il y a aussi des représentations de ce qu'est une femme respectable qui fait qu'on peut pas dire et faire n'importe quoi. Donc, contre ce qu'on dit parfois, les sites et les applications hétérosexuelles sont souvent très pudiques. Il y a évidemment des rencontres sexuelles qui se font, mais elles s'assument rarement explicitement comme telles. Donc il y a aussi des codes différents selon les orientations sexuelles, selon les sexes, etc. Et donc c'est des codes relativement diverses, on va dire.
Nos invités jusqu'à 13h30, Marie Bergström, auteur de Les Nouvelles Lois de l'Amour, et Richard Memto, qui signe, lui, chez Zone Édition Sex Friends. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez maintenant, il est 13h20 sur France Culture.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Alors, les sites internet, les applis, enfin les sites de rencontres, est-ce des hypermarchés du sexe, pour reprendre une expression que vous, qui a été employée, que Michel Houellebecq aussi a popularisé? L'amour est-il devenu tout simplement un marché? Ce marché est-il aussi libre qu'il y paraît? Pour ouvrir cette deuxième partie de la discussion, je vous propose d'écouter les mots du sociologue Jean-Paul Kaufmann, auteur il y a 10 ans déjà de Sexe-Amour chez Armand Collin. La logique consommatoire, lui, il compare internet à un supermarché de l'amour et des désirs.
Marché ou hypermarché, qui est une excellente image de ce qui se passe, qui est à la fois un hypermarché des désirs et des personnes. des désirs, on voit s'exprimer aujourd'hui des affirmations, des explicitations de désirs extrêmement précis, extrêmement pointus, pour trouver une correspondance. Je suis amateur de ceci ou de cela, est-ce que pour telle soirée. Donc c'est l'individu bien installé dans sa réalité d'être qui exprime ses plaisirs, et dans un temps limité, on est extrêmement loin de l'amour, on est aux antipodes complètement, voit s'il peut y avoir une correspondance. Et puis, hypermarché des personnes qui sont dans la recherche, parfois angoissées, de la personne pour la vie, avec la hantise de se tromper sur ce choix, et qui sont dans une logique consommatoire, c'est-à-dire qui essaient de définir d'une certaine manière le produit idéal, sans se remettre en cause elle-même. Or là, c'est aux antipodes de la démarche amoureuse, complètement. Quoi. Ouais. Donc là, c'est un point qui est au cœur de notre société, qui est extrêmement, extrêmement grave.
Alors vous soutenez, Richard Mamtou, dans votre livre « Sex Friends », que cette marchandisation sans marché est une chimère.
Oui, parce que c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas justement quelqu'un comme on irait chercher, je sais pas, des tranches de jambon dans un supermarché. Justement parce que l'autre doit nous répondre, doit nous parler. Et le jambon dans le supermarché, il fait pas ça. Voilà. Et puis on n'achète pas les gens, sauf si on était vraiment dans des rapports de prostitution. Donc en fait, cette idée-là, elle sert à dire autre chose. Elle sert surtout à disons, désinhiber d'une part, parce que c'est souvent comme ça, c'est-à-dire on va justifier le sexe par le marché, donc on va dire au fond c'est moins sale que le sexe, donc il vaut mieux penser l'autre comme un objet, et puis peut-être, en revanche, elle manque le rapport de négociation, c'est-à-dire toute la dimension stratégique et même plutôt de jeu en réalité. L'une des métaphores qui me plaît beaucoup plus, moi, c'est celle du jeu. Et quand on parlait d'algorithmes tout à l'heure et de noter effectivement des gens, en fait, on fait plutôt référence ici au classement dans les sports et dans les jeux. Donc je suis vraiment très dubitatif à l'égard de cette métaphore qui peut-être est celle effectivement d'une autre génération ou d'écrivains comme Houellebecq.
Mais qui vient peut-être aussi des critères de choix qui peuvent être indiqués sur les sites, ce sentiment d'un ciblage, d'une redéfinition.
On cible, mais on ne cible pas qu'au supermarché. Et puis surtout, nos choix sont, je veux dire, si on y va un peu, nos choix sont vraiment parfois complètement irrationnels, on le sait. C'est-à-dire qu'on n'est pas des consommateurs très rationnels comme on devrait l'être en comparant les prix. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Oui. Marie Bertrand.
Effectivement, le terme marché est souvent utilisé de façon métaphorique. Et donc, on dit que c'est un marché la rencontre, c'est un supermarché, un hypermarché. En fait, c'est souvent plus une critique qu'une analyse. Et c'est une critique, je trouve, qui, et je pense, vraiment exprime les appréhensions qu'il y a envers ces sites, les applications, beaucoup plus que ça ne décrit des pratiques ou une réalité des usages. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est cette idée que l'amour devrait être aveugle et désintéressé, la rencontre devrait être aléatoire, se faire par hasard. C'est sûr et certain que sur Internet, ça ne se passe pas comme ça. Mais les choses ne se sont jamais passées comme ça. Les sites, les applications mettent au défi ces imaginaires. Et vraiment, je pense que ça s'inscrit beaucoup là-dedans. Donc le marché, c'est ce qu'on trouve de plus moche, de plus sale, le plus opposé à l'amour. Donc on utilise ce terme-là pour, voilà, comme une critique de ces services. Après, il y a aussi un usage de marché, on va dire, plus littéral qui a été utilisé par des économistes, par des sociologues et des démographes aussi pour décrire la formation des couples, par exemple. De fait, il n'est pas non plus mieux parce que c'est cette idée que trouver un partenaire, ça sert exactement les mêmes logiques qu'un échange économique. Théoriquement, ça peut être séduisant, mais empiriquement, c'est très, très différent. Ce que les gens font, les logiques d'action, les enjeux, les normes sont vraiment très, très différents. Donc, il y a un peu une confusion. Donc, ce qu'on peut dire, je pense, c'est que dans les relations humaines, il y a des échanges. C'est sûr que dans les relations amoureuses, on échange des choses, mais sur un marché économique aussi. Mais tous les échanges ne sont pas un marché. Il y a des échanges marchands et il y a des échanges non marchands. Et ça, c'est un peu une clarification conceptuelle qui avait été faite notamment par Alain Testard il y a quelques années, mais que je pense qu'il faut vraiment souligner de nouveau parce que avec les sites et les applications, on a ce terme qui se diffuse et de fait, il décrit mal les pratiques et il décrit mal ce qui est en train de se passer, les enjeux avec la diffusion de ce nouveau mode de rencontre où il y a des échanges plus ou moins calculés, plus ou moins rationnels, mais ce ne sont pas des échanges marchands.
Il n'y a pas de marché, mais est-ce que ça marche? C'est-à-dire, est-ce que ces sites aujourd'hui permettent de se lier plus facilement, peut-être, que dans la vraie vie et ailleurs, hors des cercles habituels de sociabilité, Marie Bergström?
Aujourd'hui, ces sites et applications, notamment par exemple, participent à la formation des couples. Aujourd'hui, on a des enquêtes qui permettent de voir quelles sont les expériences que les gens font et quelles sont notamment la part de couples qui naissent. Donc une enquête de l'INED qui a donc regardé des personnes qui se sont mises en couple entre 2005 et 2013. Parmi ces personnes-là, c'était à peu près un peu moins de 9% qui ont connu leur conjoint sur un site de rencontre. Ce qui plaçait ces services en cinquième position dans le palmarès, si on peut dire, des lieux de rencontre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours plus courant de rencontrer son conjoint sur le travail ou sur le lieu d'études, dans une soirée entre amis, dans un lieu public ou dans un espace privé, mais arrive en cinquième position ces nouveaux sites et applications qui sont aujourd'hui plus courants pour rencontrer son partenaire que les discothèques, les associations, etc. Donc ces services aujourd'hui ont lieu à beaucoup de rencontres. Certes, beaucoup de ces rencontres deviennent sexuelles et restent plutôt sexuelles, mais de plus en plus, ça participe aussi à la formation des couples et ces chiffres sont vraiment voués à augmenter. Et donc on va voir aussi l'émergence de ce site comme un lieu de rencontre important, sans pour autant devenir le lieu dominant. Mais quand même, ça fait partie de la géographie amoureuse aujourd'hui, très clairement.
Pour vous, Richard Memetaux, qui sont aujourd'hui les gagnants et les perdants de ce nouvel espace de rencontre, de ce nouvel écosystème?
Pour une première réponse, j'aurais envie de dire, au fond, presque tout le monde est gagnant. Évidemment, il y a des âges différents, il y a des attentes différentes, et peut-être qu'on n'est pas gagnant tout de suite. Mais en comparaison, peut-être, à ce qu'on pouvait voir auparavant, on a une sensation d'abondance assez immédiate. Après, je trouve que la question se déplace, en fait. Au début, peut-être qu'on a surtout envie de réussir à rencontrer quelqu'un et à coucher avec. Voilà, vraiment, on veut foncer, en quelque sorte, vers la satisfaction sexuelle. Mais très vite, on se rend compte que la question, c'est plus de savoir si on est gagnant ou pas. En fait, la question, c'est de savoir comment on le fait. Et c'est là où, d'ailleurs, on rejoint des problématiques qui sont assez contemporaines. Je veux dire, après MeToo, on est obligé de se demander comment on fait. La question n'est plus de savoir combien de conquêtes on a. La question de savoir si, au fond, en multipliant les conquêtes, on reste un individu encore relativement fréquentable ou si on devient carrément un salaud. Parce que, à force de ne pas du tout réfléchir à ça, on va juste enchaîner les bourdes les unes après les autres et effectivement être quelqu'un, disons, de une sorte de prédateur, quoi, se transformer quasiment en libertin, c'est-à-dire du 18e siècle.
Vous êtes dans une quête d'éthique presque, hein, dans ce nouvel univers. Vous déplacez cette question sur le terrain de la morale aussi.
En fait, je trouve que ces applications, ces sites sont l'occasion d'une réflexion. Je pense pas que ça nous transforme automatiquement. Je crois pas que les gens soient immédiatement moraux parce qu'ils arrivent à trouver de la sexualité. Mais il y a plein de questions secondaires qui se greffent sur la question de la sexualité. Par exemple, quand on choisit les gens en fonction de leur âge, de leur apparence ou effectivement de leur couleur de peau, on est obligé de se demander tout de suite quel genre de fétichisation on va mettre en œuvre. Et j'allais dire, c'est une question totalement inédite.
Et de préjugés.
Et de préjugés, donc qui se pose directement.
D'ailleurs, vous dites, vous, Marie Bergschaum, dans votre enquête, que les logiques sociales de sélection, elles se reproduisent tout autant finalement sur ces espaces de rencontre.
Oui, il y a eu beaucoup d'hypothèses sur ce qu'Internet ferait à ces logiques sociales. Parfois, on a dit que c'est l'abolition des frontières sociales et géographiques. Au contraire, on a dit que c'est une hyper-sélection, etc. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. On trouve, de fait, c'est plutôt des logiques de reproduction de l'homogamie, par exemple, sur Internet, cette tendance à former un couple avec quelqu'un qui nous ressemble socialement. Donc, et je pense aussi qu'effectivement, les sites, les applications, pour moi, ils mettent en exergue ces logiques-là. Il les donne à voir. Quelque part, ces services mettent à nu les relations intimes, mais ils les montrent de façon, on va dire, parfois un peu brutale. Mais ça ne veut pas dire qu'ils transforment en profondeur. Parce que justement, les choix sur l'âge, sur la classe sociale, sur l'origine ethnique, etc., ce ne sont pas des nouvelles logiques dans la formation des couples. Ce sont des choses qu'on peut observer en amont. Mais qu'est-ce qui se passe sur Internet? Ça devient beaucoup plus visible. Donc, reproduction et explicitation des enjeux, des logiques sociales et des inégalités dans les échanges amoureux et sexuels.
Voilà, et si on revient aux personnes, aux utilisateurs, vous dites aussi, Richard Memetaux, c'est intéressant que finalement le dialogue qui va se nouer dans ces espaces-là, est aussi une épreuve de vérité, un test où se matérialise la vérité de nos intentions. C'est moi qui ai un peu écorché le micro, pardon pour vos oreilles. Richard Memetaux, Sex Friends, votre livre vient de paraître chez Zone Édition. Merci à vous aussi, Marie Bergschaum, les nouvelles lois de l'amour, sexualité, couple et rencontre. contre autant du numérique. C'est aux éditions de La Découverte. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table pour cette nouvelle semaine. À Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Alex Dang. Très bel après-midi à tous sur France Culture.